Et c'est le moment de retrouver Variation en noir.
Variation en noir. Roman noir sur Radio PFM. Et littérature policière au pluriel. Variation en noir dans Variation sur PFM, effectivement, le dernier vendredi du mois. Variation en noir, le rendez-vous des littératures policières, et donc le rendez-vous avec 813, l'association des amis des littératures policières, et en particulier, rendez-vous avec son président Hervé Delouche. Hervé, bonjour.
Oui, Guy.
Oui, Hervé, oh, ça fait plaisir, un énorme plaisir de t'entendre avec, il y a quand même quelques kilomètres qui nous séparent et avec
oui,
la technique, il y a toujours des petites inquiétudes. Mais en tout cas, ça fonctionne parfaitement, la liaison avec Paris est bonne. Donc, au programme de ce Variation en noir aujourd'hui, eh bien, deux coups de cœur de Louchien, je vais dire ça comme ça aujourd'hui, et bien entendu, quelques nouvelles de 813, et puis trois questions à Nathalie Benat qui a traduit une nouvelle inédite de Dashiell Hammett, ce qui n'est pas rien. Nathalie Benat qui a traduit donc une nouvelle inédite pour la revue Feuilleton, une nouvelle donc intitulée, je prends le sommaire de la revue, 4 cm de gloire. Ce sera pour la fin de cette séquence. Alors Hervé, tout de suite, et nous attendons d'ailleurs depuis un mois ce coup de cœur, puisque lors de notre première émission, quelques soucis techniques nous avaient empêché de t'entendre parler de ce livre. Alors vas-y.
On avait été un peu pris par le temps,
voilà.
Oui, je crois. Oui. Alors, c'est un gros coup de cœur en fait. C'est un roman qui s'appelle Le Dernier Arbre de Tim Gautreau. Le nom français un peu, enfin à consonance française, Gautreau du monsieur s'explique par l'origine qui est la Louisiane et qui est l'endroit où se passe ce roman. Alors c'est intéressant parce que on sait bien que le roman noir, on fait toujours cette liaison les villes, la jungle d'asphalte, voilà, mais on sait quand même depuis un certain temps, on le savait aussi avec Faulkner hein, mais on sait depuis un certain temps que et on a appris à connaître de grands romans noirs qui se passent à la campagne si j'ose dire. On l'a vu avec Ron Rash, avec William Gay, des écrivains comme ceux-là.
Plus antérieurement avec Charles Williams.
Et évidemment avec
Fantasia,
avec Charles Williams.
Fantasia chez les Ploucs et toute la série.
Fantasia chez les Ploucs, tout ce genre de romans-là. On l'avait vu aussi avec un auteur, Larry Brown,
oui.
L'auteur de Joe et d'autres livres. Mm-hmm. Voilà. Et là, on est en Louisiane. On est au cœur du bayou, en plein dans les marais. Et ça se passe en 1923. Pour aller très vite, en fait, ce qui est au centre, il y a deux frères. Qui sont les frères Aldridge. L'un se prénomme Byron et l'autre Randolph. Byron, il est déjà sur place depuis un moment. Il est parti en France. Il a connu l'horreur des tranchées et il est revenu aux États-Unis. Il a déserté, disons, le foyer familial. Son père est un gros entrepreneur de Pittsburgh et il est allé s'enterrer au fin fond des marais. Et là, il est constable, il est l'officier de police qui essaie de faire régner l'ordre sur la scierie qui est là, qui s'occupe de débiter des cyprès rouges. Et arrive son frère, qui est son frère Randolph, qui est là parce que le père a racheté la scierie, Et Randolph vient, c'est aussi un prétexte en fait pour voir ce que devient le frère Byron. Et ce roman, ça va être, comment dire, la rencontre de deux mondes absolument différents. Randolph, c'est un homme d'ordre, un homme qui vient de la grande ville avec des tas de principes et qui est aussi un peu l'image d'un capitalisme en marche dans ces années 20, après-guerre, voilà. Et Byron, lui, c'est un peu l'homme un peu désespéré, revenu de tout après le traumatisme de 14-18. Il y a des pages, quelques pages magnifiques qui reviennent sur ce qu'il a vécu en Europe. Et Byron, lui, il vit le quotidien à la force de ses poings ou de sa Winchester pour essayer de faire régner l'ordre dans ce coin où qui dit Syrie dit des ouvriers exploités qui vont claquer leur paye dans un saloon flottant qui s'est installé là, tenu par des Siciliens, où il y a quelques prostituées, il y a des bagarres, tout ça. Et évidemment, il va y avoir cette cohabitation, parfois cet affrontement entre ces deux frères qui représentent deux mondes différents et qui n'ont pas vécu les mêmes choses. Et évidemment, les lignes vont bouger, c'est-à-dire que les personnages vont évoluer. Et tout ça, il y a derrière tout ça quelque chose d'extraordinaire qui est la nature, avec des tas de bestioles peu sympathiques, les moustiques étant les moins détestables, mais évidemment les mocassins d'eau qui ne sont pas des chaussures pour marcher dans l'eau, mais qui sont des serpents minutes, des alligators, j'en passe. Voilà, et ça donne un roman qui est très très profond, sur la violence, sur cette difficulté de la fratrie et sur ces deux mondes en compétition, en affrontement. C'est un grand roman sudiste. C'est un livre absolument splendide, Le dernier arbre de Tim Gautreau au seuil.
Le dernier arbre, donc on retient ce titre au seuil de Tim Gautreau. Alors je t'écoute Hervé et je pense, là il y a quelques mots qui me font vraiment penser justement à Ron Rash. Oui. Alors j'ai plus le titre en tête, mais son précédent roman qui traitait aussi de cette question là, d'une
série. Alors il y avait effectivement... Il y avait peut-être celui auquel tu fais allusion, c'est Serena.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà.
Qui faisait assez saga.
Entrepreneur, ouais. Là aussi, je crois, d'une grosse entreprise forestière.
Voilà, c'est ça, oui.
Voilà, qui avait pris femme à la ville et qui revenait avec elle. Et on avait... Et alors, ce sont effectivement des styles différents, mais des auteurs qui ont vraiment à voir pour ça. C'est-à-dire qu'on est... Il y a cette importance justement de la nature qui est quand même quelque chose qui est très important dans tout ce qu'a été l'Amérique du Nord, bien sûr, sa domestication, mais aussi son côté sauvage qui peut perdurer, et bien évidemment dans les Appalaches de Ron Rash qui lui sont chers, comme dans le Bayou dont on parle avec Tim Gautreau et avec d'autres auteurs, hein, le Bayou revient dans un certain nombre de romans noirs. Il y a quand même cette puissance de la nature et des hommes confrontés à cela, oui.
Alors justement, Hervé, c'est un courant littéraire qui a le vent en poupe, si je peux me permettre, en ce moment aux États-Unis, le nature writing. Je sais que tu travailles aussi pour les éditions Gallmeister, qui ont une collection consacrée à ces auteurs,
oui.
et qui fait régulièrement, un courant qui fait la jonction entre la nature et le roman noir, ce qui peut paraître paradoxal, puisque par définition, le roman noir, c'est un roman urbain.
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que, évidemment, que le roman noir, il est né, on sait bien, justement, tu citais Dashiell Hammett, que Nathalie Benin et Pierre Bondy l'ont entièrement retraduit, entièrement retraduit les romans.
Pour Gallimard, chez Quarto, pense.
Oui, en Quarto, chez Gallimard. Bien évidemment, de même que Raymond Chandler, de même que beaucoup d'autres auteurs, mais il y a toujours eu en parallèle une littérature pas toujours considérée comme, évidemment pas considérée comme policière, mais des gens comme Faulkner, je pense aussi à Erskine Caldwell, des gens comme ça, sont aussi des écrivains qui dont les livres sont tout autant des romans noirs, hein, pour certains d'entre eux, et comme le sont certains romans de Steinbeck aussi, je pense à Des souris et des hommes, par exemple, et il est bien évident que la campagne, ou les campagnes, de même qu'il y a des villes, ben, il y a aussi le Wyoming, le Kentucky, James Cromley nous a emmenés dans le Montana, Craig Johnson, chez Gallmeister dont tu parles, c'est des polars qui se passent dans au fin fond du Wyoming, Tony Hillerman et les Indiens Navajos, etc. Ouais. Je pense qu'il y a de toute façon aussi tout un courant, j'allais dire, de romans noirs ruraux, cela n'étant pas dépréciatif quand je dis ça.
Voilà, alors Hervé, pour que cette fois nous puissions écouter ton deuxième coup de cœur, on va donc passer à ce deuxième coup de cœur et on revient, si j'ai bien compris, on revient chez nous. Quand je dis chez nous, c'est ici
alors,
en France.
On revient chez nous, mais on va rester à la campagne, décidément, c'est la journée. Avec un livre qui est paru il y a quelques mois qui s'appelle Des nœuds d'acier de Sandrine Colette et qui relançait la collection Sueur froide qui était une vieille collection de chez De Noël. Et là on est dans une région qui est mi-forêt, mi-montagne, qui n'est pas précisé, ça se passe dans la France profonde, entre guillemets.
Les Vosges, un peu, dans ce moment-là.
Ça pourrait faire penser aux Vosges, effectivement. Et là, on a quand le livre s'ouvre, on a un type, Théo, dont on sait qu'il est sorti de prison pour un acte violent que je laisserai le lecteur découvrir. Et en fait, il a passé un certain temps en tôle et il veut se refaire une santé. Il arrive donc dans cette... il se met au vert, c'est le cas de le dire. Et puis voilà, il prend pension chez une dame qui semble tout à fait gentille, qui lui mitonne des petits plats et puis qui lui conseille des balades dans les environs parce qu'il a envie de marcher, qu'il aime ça et que ça lui vide la tête. Et là, eh bien, un jour, au détour d'une balade, il va tomber sur la mansarde de deux vieillards un peu retirés du monde. Et là, le livre va basculer et son histoire à lui va basculer. On peut le dire.
Ne nous en dis pas trop, Hervé.
Non, je n'en dis pas trop, mais il y a une histoire. On peut le dire, la quatrième de couverture du livre le dit. Alors donc, ouais. Il y a une histoire de séquestration. Et ce qui est très intéressant, c'est que la question, en fait, très vite, ne va pas être, et je ne dévoile rien en disant ça, mais elle va pas être comment pourra-t-il s'échapper, comment s'échapper, mais elle va surtout... le livre va surtout s'attacher à comment un homme peut perdre peu à peu toute son humanité quand il est plongé là-dedans. Et à l'intérieur de la tête de Théo, il va se passer beaucoup de choses. Et c'est un livre très réussi qui joue pas du tout sur un côté rebondissement, thriller, il s'échappe, on le poursuit, on le rattrape, etc. Pas du tout. C'est un livre puissant et il vient d'obtenir le Grand Prix de littérature
policière. Redonne-nous le titre, l'auteur.
Alors, c'est Des nœuds d'acier de Sandrine Colette, avec deux L et deux T, et c'est chez De Noël.
Eh bien, Hervé, avant de se quitter, quelques nouvelles de 813, puisque bon, il y a un rendez-vous important qui arrive.
Alors, il y a un rendez-vous important qui arrive, qui est le festival Paris Polar, qui aura lieu du 22 au 25 novembre. Et avec un point fort
à Paris, donc c'est dans le 13e, c'est ça.
Voilà,
dans le 13e. C'est l'occasion d'aller passer un week-end à Paris.
C'est organisé par la mairie du 13e et l'association Paris Polar. 813 est très actif depuis la création de ce festival. Et il y aura un salon, donc les samedis 23 et dimanche 24, où on pourra retrouver des écrivains étrangers comme Philippe Kerr, comme Qiu Xiaolong ou Sam Millar, mais également Pascal Dessin, Jean-Hugues Hoppel, Sandrine Colette, justement, Jérémy Guez, François Guérive, dont je crois tu reparleras bientôt sur cette antenne.
On en reparlera ensemble.
Voilà, on en reparlera ensemble, et puis une vingtaine d'écrivains, Olivier Truc, voilà. Et par ailleurs, l'Assemblée Générale de 813 se tiendra là le dimanche matin et les trophées 813 voilà. de l'année seront remis sur le salon le dimanche à 14h.
Alors, voilà. ça tombe très bien parce que donc, c'est le 24 et le vendredi qui suit, c'est le dernier vendredi du mois et on se retrouvera. Donc, et en plus, cette fois, tu viendras à Arras, donc on sera en direct dans les studios, on prendra voilà. le temps hein, bien d'analyser précisément ces trophées 813 2013.
Peut-être, je serais très content d'être avec vous en chair et en os, là, cette fois.
Et peut-être...
On petit mot. Parler de ces trophées, tout
voilà,
à fait.
Un petit dernier mot, peut-être, en temps, il faut le dire, tu es aussi membre du jury du prix Amila Mecker, hein, qui est décerné à Arras chaque 1er mai à l'occasion du Salon du Livre. Et en 2009, ce prix a été décerné à Zoulou de Caryl Ferré, qui va être présenté, enfin, roman qui a été adapté au cinéma et qui va être présenté en avant-première au Festival du Film le 13 novembre. Est-ce que tu seras sur Arras pour cette...
Je ferai tout pour être là parce qu'effectivement, on attend. Moi, j'ai hâte de découvrir ce film. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Zoulou. Et bon, je crois comprendre en plus que Caryl Ferré, j'ai cru comprendre qu'il était plutôt très content de l'adaptation qui en avait été faite. J'ai hâte de voir Forest Whitaker. Enfin, voilà.
Se voit sans doute le 13. Et en tout cas, on en reparle de Zoulou aussi dans un mois, hein, dans Variation en noir. Encore merci, Hervé. À très, très bientôt.
Merci, Guy. Merci à vous, à bientôt, au revoir.
I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky.
Déjà,
l'indicatif
il se plante. Il commence pas au début.
Hey, 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 all you young girls, wherever you're at. I got a brand new Cadillac, got a Ferrari too. Sure, the baby, show the fingers. Got the time to teach you, I bet you learn some chill. Got the time to teach you, I bet you learn some chill. Show the baby, show the fingers I do.
La magie des émissions en direct, Variation en noir dans Variation, le dernier vendredi du mois avec des micros off qui ne sont pas off, qui sont ouverts à vos oreilles. Et ben, écoutez, ouvrez bien vos oreilles comme le matin sur PFM. On va écouter donc dans un instant Nathalie Benin qui est éditrice, traductrice, grande spécialiste française de Dashiell Hammett qui a traduit donc une nouvelle inédite. C'est quand même un événement important pour le roman noir, pour les amateurs de littérature noire. Donc, une nouvelle, 4 cm de gloire dans la revue Feuilleton, le numéro de Feuilleton de l'automne 2013. On écoute Nathalie Benin.
Une nouvelle inédite d'un écrivain d'une telle envergure, 50 ans, un peu plus de 50 ans après sa mort, ça paraît incroyable. D'où sort ce texte, Nathalie Benin ?
Alors, ce texte n'a jamais été publié, mais c'est pas pour autant qu'il était inconnu, pas des services de police, mais des gens qui travaillent sur Hammett, notamment son biographe américain, Richard Lehman, qui savait très très bien que cette nouvelle, et puis d'autres, puisque c'est tout un recueil de nouvelles inédites qui va sortir à New York cette année en novembre 2013, qui s'appelle The Hunter and Other Stories, donc le chasseur et les autres nouvelles. Elles étaient conservées dans un centre à l'Université du Texas, le Harry Ransom Center, qui est l'endroit où sont conservées les archives de Hammett et de sa compagne Lillian Hellman. Donc Lillian Hellman qui s'était autoproclamée son exécutrice testamentaire. et qui, après avoir verrouillé tout ce qui était parution et information sur Dashiell Hammett après sa mort, Hammett étant mort en janvier 61, Hellman avait mandaté trois avocats new-yorkais pour, après sa propre mort à elle, continuer de verrouiller l'accès aux archives, puisque tout ce qui paraissait autour de Hammett, que ce soit les travaux bibliographiques ou biographiques, et la parution de textes comme celui qu'on découvre aujourd'hui, tout cela, elle avait fait en sorte qu'elle-même en décidait. Donc ces textes, et celui-là en particulier, 4 cm de gloire, c'est le titre de la nouvelle, n'étaient pas des nouvelles qu'on a retrouvées l'été dernier dans un carton par hasard. C'était des nouvelles qui étaient répertoriées, mais qui, pour des raisons techniques que je viens d'expliquer, n'ont jamais pu être publiées. Voilà. Et c'était des textes, donc ça c'est la deuxième précision importante, ce n'est pas une nouvelle policière, mais pourtant c'est une nouvelle qui a été écrite au moment où Hammett est dans cette décennie fabuleuse entre 1922 et 1932, où il va écrire à peu près toute son œuvre.
Alors, vous l'avez dit, hein, effectivement, ce n'est pas une nouvelle policière, ni même une nouvelle noire. Et qui plus est, l'écriture, hein, le style de cette nouvelle est loin de ce qu'on appelle le behaviorisme, hein, c'est-à-dire la marque de fabrique de Dashiell Hammett, le comportement, hein, dans l'écriture plutôt que le ressenti. Donc, on est très loin, hein, du style Hammett que l'on connaît dans ses romans et dans ses nouvelles noires. Alors, si vous aviez lu ce texte sans connaître son auteur, auriez-vous reconnu Hammett et pourquoi ?
Alors, une réponse de Normand, de Normande. Oui et non, c'est-à-dire que d'une part, c'est vrai qu'il n'y a pas l'enquêteur, il n'y a même pas de crime. Donc pour trouver un lien avec Hammett, qui est quand même pour qui la gloire, sans mauvais jeu de mots, va arriver par des nouvelles policières et plus que ça des nouvelles hard-boiled et plus que ça puisqu'il a créé le roman noir américain comme on le sait. C'est vrai que sans savoir qui a écrit ce texte, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas cette application stricte qu'on retrouve dans ses romans et dans certaines de ses nouvelles policières, d'un point de vue narratif objectif, très, très cinématographique. Par contre, alors là peut-être c'est la traductrice qui parle, quand j'ai traduit cette nouvelle, je me suis souvenue de la difficulté de traduire Hammett, parce que quand on lit la phrase dans la langue américaine, Manchette avait coutume de dire, je crois que c'est dans les chroniques, dans Toast to Dash, il disait qu'il a forgé la langue américaine, puisqu'il a cette musique particulière. Des années 20 de ces nouvelles, et on retrouve quand même et le tempo, ce fameux tempo qui était cher à Hammett, qui faisait que l'écriture était un peu comme une musique avec un rythme, ça on le retrouve. Et puis mine de rien, il y a une atmosphère qui est celle des problématiques que Hammett traversait par ailleurs, peut-être de manière plus comme un fil rouge dans ses nouvelles policières, puisque ces nouvelles policières, il est question d'enquête, il est question d'enquêteurs, il est question de crimes ou d'escroqueries, mais il est surtout question de rapport à la vie, comment on se tient dans la vie. Et dans cette nouvelle, il est aussi question de ça, et peut-être même d'abord question de ça, c'est-à-dire que c'est une nouvelle, c'est une sorte de conte philosophique sur des questions d'identité, qui on est, puisque je dis quand même un mot de l'histoire, c'est un type un petit peu ordinaire qui finalement, à la faveur de circonstances qu'il n'a pas choisies, puisque c'est un peu à son insu qu'il va rentrer dans cet immeuble en feu pour sauver un enfant qui n'est pas en danger, mais ça on le sait dès le départ, mais quand même c'est toute la problématique du rapport à l'héroïsme. Qu'est-ce que c'est qu'être un héros? Qu'est-ce que c'est gérer cette nouvelle identité vis-à-vis des autres, de l'autre, d'être un héros. Et Hamet est un observateur extrêmement minutieux de l'âme humaine. Ceux qui ont lu ses romans et ses nouvelles policières le savent. Donc oui, c'est à la fois très différent et pas si différent. Et puis je terminerai en disant que il y a une chose dont on est certain maintenant, c'est que Hamet écrivait des nouvelles pour Black Mask à la chaîne, comme tous ses petits camarades, parce qu'il avait besoin de manger, il avait deux enfants à charge, et que c'était pour lui une question de survie, il fallait qu'il pisse de la copie, vraiment. Mais il avait l'ambition, il voulait être un écrivain, et il savait, il a travaillé pour ça, et il avait l'ambition d'être publié dans des revues de littérature générale. Mais c'est vrai que l'ironie, c'est que il a fallu attendre juin 2013 pour que la nouvelle dont nous parlons aujourd'hui soit publiée dans The New Yorker en juin 2013 et dans une revue de littérature générale, enfin une revue qui s'appelle Feuilleton, donc voilà, tout arrive. Mais c'était un vrai souhait chez lui. Il y a une lettre très célèbre, c'est une lettre de mars 1928, à son éditrice Blanche Knopf. Il se pose plein de questions sur le point de vue narratif, savoir s'il laisse tomber le point de vue objectif ou pas. Bon, après c'est une autre histoire, mais il va le garder parce que le cinéma parlant arrivant, il est un peu tenu de le garder pour des raisons là aussi objectives. Et il dit ceci à son éditrice, il dit: je suis l'une des rares personnes qui prennent le roman policier au sérieux. Un jour, un type en fera de la littérature et je suis assez égocentrique pour espérer avoir des chances.
Alors avec cette traduction, vous donnez à la revue Feuilleton un article intitulé « Hamet l'insaisissable » et vous concluez cet article par une formule de l'auteur, de Dashiell Hamet, effectivement suffisamment passe-partout pour le rendre insaisissable. « Ce qui tient debout, ce qui te tient debout, écrit Hamet, c'est d'avoir dans la vie quelque chose qui te passionne. » Est-ce ce côté insaisissable de Dashiell Hamet qui vous passionne, Nathalie Benin, vous hein, qui connaissiez justement mieux que quiconque, tout au moins en France, cet auteur?
Alors déjà le titre, c'est le nouveau titre de la biographie de Richard Lehman qui est ressorti il y a 2 ans. Sous ce titre, Dashiell Hamet, l'insaisissable. Alors c'était un clin d'œil à Lehman, qui connaît depuis plus longtemps que moi Hamet, et encore mieux que moi. Donc c'est un peu un clin d'œil à lui, mais c'est aussi parce que l'insaisissable, c'est l'adjectif qui convient parfaitement à Hamet, puisqu'il est l'homme aux multiples facettes. C'est quelqu'un qui est à la fois un patriote convaincu, puisqu'il va non seulement faire la Première Guerre mondiale, comme tous les gens de sa génération, mais exiger de faire la deuxième et d'être incorporé à 48 ans alors qu'il est tuberculeux et que les médecins militaires ne veulent pas de lui, mais il insiste finalement. Il va être soldat et participer à l'effort de guerre, c'était ça Hamet. En même temps, c'est aussi le militant qui est très engagé aux côtés du Parti communiste américain, à peu près du début des années 30 jusqu'à sa mort, en 61, donc pendant 30 ans, qui, pour ses sympathies et actions communiste, puisqu'il est très investi pour les droits civiques et dans tout un tas d'associations issues du PC américain. Il va être convoqué 2 fois devant les juges McCarthyistes, une fois en 51 et refusant de céder à la pression, refusant de dénoncer ses camarades, il part en prison 6 mois. Et en 53, à nouveau, alors qu'il est usé, malade et ruiné, McCarthy himself le reconvoque et de nouveau cette espèce de mise au pilori dont je parle dans l'article, cet acharnement, cette volonté de briser les gens, parce que c'était ça. C'était pas seulement éradiquer la menace communiste sur le sol américain, c'était la volonté de briser des vies. Et tout cela, il résiste. Et donc, voilà, l'insaisissable, sur cet aspect politique de sa vie, c'est vrai que l'insaisissable, oui, parce que c'est pas non plus un ancien détective qui est devenu écrivain, c'est évidemment éminemment plus compliqué que ça. C'était vraiment un écrivain dans l'âme, c'était quelqu'un qui était habité par l'écriture. Mais l'insaisissable, c'est, pour terminer, qu'on ne saura jamais pourquoi il a arrêté d'écrire à 40 ans, en pleine gloire, alors qu'il a eu 10 ans d'une créativité absolument formidable.
4 centimètres de gloire, donc une nouvelle inédite de Dashiell Hammett, le père du roman noir. Nous venons d'écouter Nathalie Bonnat qui a traduit cette nouvelle et qui a aussi qui nous propose aussi un article autour de Dashiell Hammett, et tout ça vous le retrouverez dans une revue que je vous conseille, Feuilleton, une revue donc de littérature. Littérature générale, et c'est le numéro 9 de cette revue Feuilleton, automne 2013. Voilà, c'est terminé pour Variation en noir.
Variation noire, prochain rendez-vous dans un mois ?
Dans un mois, donc toujours avec Hervé Delouche de l'association 813 pour évoquer donc les littératures policières et le roman noir.
La semaine prochaine dans Variation, un spécial L'autre cinéma avec Éric Millot, le délégué général, pour nous parler pendant une heure de ce festival. Et puis on vous souhaite un excellent week-end et ne quittez pas le 99.9. No, it's not my business.